Seigneur, c'est un privilège en effet d'être ici ce matin et de pouvoir venir encore en toute liberté dans ce pays pour t'honorer, pour te louer, pour t'adorer, pour te bénir, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous par ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que Christ est mort pour nous, nous qui sommes pécheurs, et par ce sacrifice à Golgotha, sa mort et sa résurrection, Seigneur, eh bien, il a payé la dette qui était due. Il a payé par son sang le prix. Et Seigneur, aujourd'hui, nous sommes libres de pécher. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus, mais Seigneur, nous sommes pardonnés, nous sommes déclarés innocents et justes devant toi, Seigneur. Et nous ne pouvons que te louer et t'adorer. Et Seigneur, je te prie vraiment que nous ayons la même attitude envers ceux peut-être qui nous offensent, Seigneur. Car il n'y a aucune offense aussi grande que la nôtre envers toi, Seigneur. Et tu nous as pardonné, nous devrions pardonner toutes les personnes qui nous offensent. Aide-nous à avoir cette attitude, celle qui était en Jésus-Christ. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas Christ, qu'aujourd'hui soit le jour où ils peuvent te rencontrer. Et Seigneur, pour nous qui te connaissons, utilise aujourd'hui, Seigneur, comme encore un pas dans notre sanctification. Fasse-nous à l'image de Christ, afin que nous soyons de plus en plus comme ton Fils, Seigneur. Maintenant, nous te remettons l'étude de ta parole ce matin. Seigneur, bénis-nous, fais-nous du bien et rends-nous joyeux. Et je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien écoutez, si vous êtes en visite ce matin, bien nous sommes dans une série et nous arrivons gentiment vers la fin de cette série. C'est une série sur les 10 commandements. Et aujourd'hui, nous abordons le 8e commandement. Le 8e commandement, alors on va le lire ensemble. Si vous avez vos Bibles, on va aller à Exode chapitre 20. Exode chapitre 20 et au verset 15. Au verset 15, le 8e commandement que j'aimerais lire. Exode 20, 15. Tu ne déroberas point. Alors ça, c'est un texte court, d'accord ? Tu ne déroberas point. Fin du message. Non, j'aurais pu arrêter là, d'accord ? Je crois que c'est hyper clair, mais je ne vais quand même pas m'arrêter là. Le vol. Le vol. Voilà de quoi nous voulons parler aujourd'hui. Alors, peut-être pour nous mettre dans le contexte du vol, alors si vous parcourez la parole de Dieu, eh bien vous savez que dans la Bible, il y a beaucoup de vols. Il y a beaucoup de gens qui commettent toutes sortes de vols. Alors il y en a un qui m'a toujours intrigué, et je vous invite à y aller, on va juste le lire ensemble, c'est dans 1 Roi 21. Dans 1 Roi 21, une histoire qui m'a toujours intrigué, peut-être parce que ce vol est tellement injuste. Alors bien sûr, tous les vols sont injustes, mais celui-ci me semble particulièrement indigne. Et alors, je pense qu'il va bien nous mettre dans le contexte de ce que nous voulons voir ce matin. C'est le vol de la vigne de Naboth par Akab. D'accord ? Alors peut-être vous vous rappelez de cette histoire. Je vais simplement lire. Akab, c'était un roi. Et il était marié avec une femme que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Jézabel, d'accord ? Ils n'étaient pas très populaires, ces gens-là. Alors écoutez ce qui se passe, je vais simplement pas dire grand-chose, c'est tellement clair. 1 Roi 21, à partir du verset 1. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jisraël avait une vigne à Jisraël, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Claire. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. » Donc Naboth a une vigne, elle est adjacente au palais du roi, puis il la veut pour un potager. Alors il dit, « Écoute, donne-moi ta vigne, s'il te plaît. » D'accord ? « Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Donc il lui propose de lui donner une meilleure vigne, ou bien de l'argent, compensation. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. Écoute, c'est un héritage. Ce verset met en valeur le droit de recevoir un héritage. C'est un héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole qui lui avait dite Naboth de Jisraël. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Vous savez ce qu'il fait là, le roi ? Il boude. Il veut cette vigne, point à la ligne. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizréel, et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ? C'est qui le roi ici ? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publie un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu es maudit, tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Je crois qu'elle viole tous les commandements d'un coup, là. Les gens de la ville de Naboth, les anciens, les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne, ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. C'était que des mensonges. Puis ils le menèrent hors de la ville et ils le lapidèrent et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé, qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel, afin d'en prendre possession. Il est tout content, il a sa vigne. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, le prophète, en ces mots, « Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession, et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin ?» Et un voleur. Vous savez, aujourd'hui le thème c'est le vol. Certes, tous les vols que les hommes commettent ne sont pas aussi dramatiques que celui-ci. Mais tous les vols sont néanmoins des vols. Alors, ce matin, pour nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce commandement, j'ai dressé une liste de questions. Ça va être plus simple de poser des questions et répondre à ces questions une à la fois. Et j'espère que ça nous aidera à mieux comprendre le sens de ce commandement tellement intéressant, comme ils le sont tous, n'est-ce pas ? Et vraiment passionnant. Alors, premièrement, numéro un, qu'est-ce qu'un vol ? Qu'est-ce qu'un vol ? J'ai ouvert le dictionnaire qui dit ceci. Le fait de s'emparer du bien d'autrui par la force ou à son insu. Action qui consiste à soustraire frauduleusement le bien d'autrui. Et ensuite, il donne des synonymes. Appropriation, détournement, brigandage, cambriolage, escroquerie, larcin, maraudage, pillage, rapine, arnaque, attaque, hold-up. Première définition, c'est de prendre. Deuxième définition, le fait de prendre à autrui plus qu'il ne doit ou de ne pas donner ce qu'on doit. Si je prends plus qu'il m'est dû, c'est un vol. Si je ne rends pas ce que je devrais rendre, c'est un vol. Donc quelque part, on est coincé de tous les côtés. Ah oui, les synonymes. Fraude, grivellerie, ça je ne connaissais pas ce mot. Resquille, celui-là non plus je ne connaissais pas. Alors c'est intéressant, juste pour mettre ça dans le contexte d'aujourd'hui, pour la France, je n'ai pas les statistiques pour la Suisse, chaque seconde, en France, l'équivalent de 155 euros sont volés dans les magasins, dont un tiers par le personnel. Chaque fois que je clique, c'est 150 euros qui partent. C'est fou, hein ? Cela représente 4,9 milliards d'euros entre mi-2008 et mi-2009, soit 4,432% du chiffre d'affaires de ces magasins. Entre juin 2006 et juillet 2007, le vol a représenté 67 milliards d'euros de pertes pour les 32 pays étudiés, USA, Canada et 5 pays d'Asie et 25 pays européens. 67 milliards d'euros, pas de francs suisses. D'accord ? Bref, ce sont des chiffres exorbitants. Le vol. Question numéro 2. Pourquoi les gens volent-ils ? Ça, c'est une bonne question, vous ne trouvez pas ? Alors, les gens, bien sûr, pas nous. Pourquoi les gens volent-ils ? D'accord ? Alors, si je demandais, levez la main si vous êtes coupable de vol. Je ne vais pas le faire, d'accord ? Dieu voit dans votre cœur, et le mien aussi. Pourquoi est-ce que les gens... Ah ben voilà, je viens de donner la première réponse. Moi, je crois qu'il y a globalement 4 raisons pour lesquelles les gens volent. Numéro 1, à cause d'un cœur corrompu. Dans Matthieu 15, 19, Jésus a dit ceci. Ce qui sort de la bouche vient du cœur et ce qui se souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, et le voici, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici les choses qui souillent l'homme. Le problème, mes amis, c'est que l'acte de voler quelque chose n'est qu'un reflet d'un cœur qui a déjà convoité et volé cette chose dans son cœur. Le problème, c'est le cœur. Notre cœur, c'est un cœur pécheur, déchu de voleur. On verra à la fin, Christ peut changer ça. Et ça, c'est l'état de l'homme naturel. Deuxième raison pour laquelle les gens volent, c'est à cause de la convoitise des yeux. Ben oui, c'est ce que je viens de dire. Ton cœur veut voler et Dieu t'a donné des yeux. Alors malheureusement, le cœur voit au travers des yeux ce qu'il veut voler. Ça s'appelle la convoitise des yeux, et dans 1 Jean 2,15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, donc ça c'est plutôt au niveau sexualité, c'est ce que la chair, le corps humain veut, la convoitise des yeux, ça c'est la convoitise des choses, et l'orgueil de la vie ne sont point du Père, mais de ce monde. » On veut. Martin Luther a dit ceci, « Si nous regardons à l'humanité dans toutes ses conditions aujourd'hui, elle n'est qu'une immense étable remplie de voleurs. » Je ne pense pas que Luther avait une très haute opinion de l'humanité. « Le monde, dit-il, n'est qu'une immense étable remplie de voleurs. » Écoutez, je crois qu'il a quand même assez raison. Je vais faire un petit jeu avec vous. D'accord ? Rien n'a changé de nos jours. Rien. Moi, j'aimerais dire un mot, 2 syllabes. Ce mot est tellement connu, tellement symbolique de nos jours, qu'il veut tout dire. Je pourrais en fait résumer mon message ce matin avec ce mot et m'asseoir. Là, je pense que vous aurez tout compris par rapport à ce commandement, combien il est pertinent même aujourd'hui. Alors, voici le mot. Vous êtes prêts ? Madoff. Qui pensait que j'allais dire Madoff ? Levez la main. Ouais, je savais que tu pensais à ça aussi. Je le voyais. Mais oui, Madoff. L'escroquerie de Bernard Madoff a coûté aux investisseurs arnaqués 18 milliards de dollars. Et pour ce vol, il a reçu 150 ans de prison. C'est la justice. Troisième raison pour laquelle les gens volent, c'est à cause de la pauvreté. Il y a des gens qui sont pauvres et sont poussés à voler à cause de la pauvreté. C'est intéressant, dans Proverbe 38, alors vous allez dire, ouais, bon, ça c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a vraiment les gens pauvres. Et écoutez bien ce que la Bible dit, parce qu'elle est tellement super, la Bible. Regardez ce qu'elle dit, Proverbe 38, « Éloigne de moi fausseté et paroles mensongères. » Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Donc il dit voilà, ne me donne pas trop d'argent ni trop peu, Seigneur, juste ce qu'il me faut. De peur que dans l'abondance, je te renie et ne dise qui est l'Éternel. Si j'ai trop, ben la tendance va être de remplacer Dieu par mon argent. Dire, ben, pourquoi est-ce que j'ai besoin de Dieu ? Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Si j'ai trop peu, eh bien peut-être je vais pouvoir être tenté de voler quelque chose. Alors ce que je trouve vraiment intéressant ici, c'est que vous dites, ouais, alors, donc est-ce que le vol, si on est pauvre, est autorisé ? Non, parce que le verset 9 nous dit que de voler même si on est pauvre, c'est de s'attaquer au nom de Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Le vol n'honore jamais Dieu. Si quelqu'un est vraiment pauvre, je pense que l'Église a peut-être quelque chose à faire là. Mais le vol, jamais. Jamais. C'est intéressant, moi, le seul souvenir que j'ai, moi, on n'a jamais été cambriolé par la grâce de Dieu. Sauf quand j'étais gamin, on était à Choulet, et je me rappelle ma mère nous racontant qu'une fois, quelqu'un est venu chez nous voler quelque chose. C'était un clochard qui est venu dans la cuisine voler un poulet dans le four qui cuisait. Absolument vrai. Et je me rappelle quand même aujourd'hui, hein, toutes ces années plus tard, quand je pense, j'ai souvent pensé à cette image de quelqu'un qui rentre chez moi, qui vient prendre un poulet, il y a une partie de moi qui est révoltée par le fait que quelqu'un aurait osé rentrer chez moi prendre quelque chose, quoi. Il y a quelque chose d'injuste. Alors maintenant, il était pauvre, il a pris un poulet, on pourrait dire, bon, ben, on peut le comprendre, mais pas vraiment. Et moi, je me rappelle mes parents, ils ont dit, ben, ils ont dû appeler la police et faire une déclaration par rapport à cela. Moi, je sais qu'il y a des gens ici dans l'église, parce que vous m'avez dit, qui ont vraiment vécu des cambriolages sérieux. Même quelqu'un dans l'église, je crois, qui a été endormi une fois par quelque chose et ils ont cambriolé quelque chose à lui. Si je ne me trompe pas, il y a vraiment des histoires incroyables. Je pense que là, c'est bien plus grave qu'un poulet dans le four, mais un cambriolage, c'est un cambriolage. Il y a le même sentiment d'injustice. Il y a peut-être une quatrième raison pour les cambriolages, la paresse. La paresse. Dans 2 Thessaloniciens 3:10, il est dit « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, ça c'est différent. Ils sont au chômage, ils ont un problème de santé ou quelque chose, ça c'est autre chose. Mais il y a des gens qui sont tout simplement paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Ils pourraient travailler, mais c'est jamais assez bien pour eux. Et ils profitent des autres. La Bible est claire, si quelqu'un est paresseux, ne veut pas travailler, il ne devrait même pas manger. C'est draconien. Draconien. Troisième question. Comment comprendre le 8e commandement ? Alors, retournons au 8e commandement, d'accord ? On est dans Exode 20, verset 15. Regardons en premier le contexte. Il y a un contexte très précis avec ce commandement, comme pour les autres. C'est le peuple d'Israël qui se prépare à rentrer dans la terre promise. Le peuple devait être un peuple mis à part, différent de tous les autres peuples dans les alentours. Un peuple de Dieu qui reflète les valeurs de Dieu. Et je pense qu'il y a un verset intéressant par rapport à cela, que j'ai encore découvert cette semaine. Dans Deutéronome 4 et le verset 6, il est dit ceci. Vous les observerez donc ces commandements et vous les mettrez en pratique car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel ? Notre Dieu l'aide-nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui est les lois et les ordonnances justes ? Comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies ces choses que les yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ce qu'il est en train de dire, c'est que, ben voilà, ces lois ont été données parce qu'elle reflète le caractère de Dieu, et les autres vont regarder et se dire « Waouh, mais ce peuple est tellement différent que certainement le seul et unique vrai Dieu est le roi de ce peuple. » Et voilà le regard que les gens devraient avoir de l'Église, mes amis. Lorsqu'ils nous regardent, ils devraient nous regarder individuellement, mais aussi en tant qu'Église, et se dire « Mais il est tellement ou elle est tellement différente que certainement la seule explication, c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. » Donc voilà le contexte de ces commandements. Et pourquoi donc, alors, ce huitième commandement sur le vol? Eh bien, il faut comprendre qu'une des valeurs capitales et fondamentales de l'homme est le droit à la propriété privée. Le droit aux possessions personnelles. C'est intéressant. Si on est ordonné de ne pas voler quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est en train de dire l'envers de la médaille, c'est de dire, cette chose appartient à l'autre et cette personne a le droit d'être en possession de cette chose. C'est un droit fondamental que de pouvoir posséder des choses. C'est un droit fondamental de pouvoir, si vous révisez les 10 commandements, de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir avoir une famille, des parents, de pouvoir avoir un conjoint à soi. De pouvoir posséder des biens personnels. Alors quel est le détail de ce commandement? Ça c'était le contexte du commandement, le détail du commandement. Bien, le commandement il est tout simple. Il dit, tu ne déroberas point. Littéralement, tu ne voleras point ou tu n'emporteras point quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Comme j'ai dit, il y a deux faces. Il y a le mal du vol, mais le droit à la protection de ses biens. Lorsque vous invitez quelqu'un chez vous, d'accord, pour une soirée ou pour manger, vous attendez, ou vous espérez, c'est quelque chose, surtout dans notre pays ici, ça paraît logique que la personne que vous invitez ne va pas repartir avec des choses plein dans ses poches. Qu'elle pique un truc là, un truc, une petite bougie sympa, tac, tac, je prends. Non, ça, théoriquement, c'est pas théoriquement, on s'attend que cela ne se passe pas. C'est le droit à la propriété. Maintenant, allons au troisième sous-point, à l'élaboration de ce commandement. Pour comprendre ce commandement, il faut aller deux chapitres plus loin, au chapitre 22. Allez avec moi à Exode 22. Regardez, c'est intéressant. La Bible, elle est tellement spécifique. Là, c'est la loi de la restitution. Si tu voles quelque chose à quelqu'un, voici ce que la Bible dit. Il y a plusieurs scénarios, on ne va pas regarder en détail, mais je vais vous le lire parce que c'est intéressant, d'accord? Exode 22, verset 1. « Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, » peut-être à Genève, c'est pas trop ce qui va être dérobé, mais à l'époque, dans cette culture agricole, un bœuf ou un agneau, il y avait beaucoup de valeur. Donc, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, donc, tu l'égorges pour le manger, pour toi, pour faire des bons beefsteaks, d'accord? Ou bien, pour le vendre, pour faire un bénéfice, il restituera 5 bœufs pour le bœuf. Et 4 agneaux pour l'agneau. C'est quand même intéressant ça. 5 fois, tu voles une vache, tu en repays 5. C'est pas donné une vache. J'ai vérifié sur internet le prix d'un bélier, parce qu'on va voir tout à l'heure, un bélier... 150 euros. Alors, je pense qu'une vache, ça vaut plus. Est-ce que quelqu'un connaît le prix aujourd'hui d'une vache? Allez, on va dire 200 euros. Fabien? Il y a des gens... Plus 300, 400. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 500, 600. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Non, voilà. C'est cher, une vache. Imaginez... Alors, disons que c'est 1000. Allez, 1000 euros. Alors là, je vois des gens qui disent, au moins, d'accord. 5000 euros. Ça fait réfléchir. Verset 2. Si le voleur, maintenant qui a volé cette vache ou ce bœuf, est surpris, verset 2, Exode 22, en dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, il sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution, s'il n'a rien, il ne sera vendu pour son vol. Tout ce qui est en train de dire ici, que si le vol se fait la nuit, à l'époque il n'y avait pas de lumière, comme aujourd'hui, on voit mal, on a le droit de défendre son bien. Très important ça. Et si tu tues quelqu'un, parce que c'est la nuit et tu ne le vois pas, quelqu'un qui par infraction vient prendre quelque chose et tu le tues, tu n'es pas coupable. Ça montre que Dieu met une valeur sur les biens personnels. Maintenant, si c'est la journée, verset 3, le soleil est levé, ça veut dire que impliqué dans le texte, que tu l'as vu, tu as pu le voir, tu l'as reconnu. Là, tu n'as pas le droit de le tuer, là, ce serait un meurtre. Là, il faut laisser agir la justice. T'appelles la police. Venez vite, il y a eu un vol. Et de toute façon, il y a restitution au verset 4. Si un homme, verset 5, fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, alors maintenant, il y a des cas, je vais juste lire. et qui laisse son bétail paître dans un champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ. Si toi tu as une vache et tu as par négligence, merci, tu laisses ta vache, elle est piétinée. Ben, c'est arrivé chez nous en fait, il y a 2 ans en arrière. Il y a des vaches qui ont traversé le treillis du champ à côté, et ils sont venus, il y avait 5 ou 6 vaches dans notre jardin, qui ont fait le tour là pendant 1 heure, c'était vraiment incroyable à voir, c'était l'automne, c'était quand la terre était vraiment boueuse, puis on entendait chaque les vaches partout, alors tous les voisins sont venus, on a essayé pour essayer de les chasser, ça n'a pas marché, finalement le paysan est venu, il avait un seau avec du foin ou je sais pas trop quoi, il a secoué, toutes les vaches sont parties. Il nous a dit, écoutez, faites une plainte, et on a été dédommagé par l'assurance. C'est juste. C'est juste. Alors, c'est ce qu'il est en train de dire ici, c'est pareil. Hein. Si un homme, verset 7, donne à un autre de l'argent, ses objets à garder, alors maintenant, si tu... et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution double. Si on te... Disons, moi, j'ai de l'argent et je te prête de l'argent. Est-ce que tu... Je pars en voyage, est-ce que tu pourrais garder mon argent? Oui, d'accord. Et quelqu'un le vole. Tu fais quoi? Ben voilà, ce sont les cas. Ici, c'est les cas différents. Parce qu'il n'y avait pas des banques, hein, surtout qu'ils étaient dans le désert, il n'y avait pas encore des banques. Dans toutes ces affaires, verset 9, frauduleuses, concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu au sujet duquel on dira cela, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Bref, ce qu'il est en train de dire, mes amis, c'est quoi? Il y a des lois très spécifiques que si tu es responsable, tu payes. Et il y a un dédommagement. Et une restitution avec plus de valeur que l'objet initial. Et devant Dieu, verset 8, tout ça à la lumière de Dieu. Ceci montre que Dieu regarde au cœur. Et même si tu mens, Dieu connaît le fin fond de ton cœur. Tu ne peux pas échapper à Dieu, ce n'est pas possible. Regardez Lévitique 6 encore, Lévitique 6. Alors c'est un peu technique, mais suivez-moi parce que c'est vraiment intéressant. Lévitique 6, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mettant à son prochain un sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché. Bref, si tu mens par rapport à un objet qui a été prêté ou qui appartient à quelqu'un d'autre, t'es chopé. Il dit, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée ou la chose quelconque sur laquelle il l'a fait un faux serment. Il la restituera dans son entier et dans ce cas-là, il ajoutera un cinquième, donc 20% de plus dans ce cas-là. Et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut. Donc là, alors tu viens de payer la valeur plus 20% de l'objet perdu, mais en plus maintenant dans ce cas-là, tu dois aller acheter un bélier sans défaut. Alors moi, c'est là où j'ai vérifié le prix d'un bélier, 150 € aujourd'hui si tu veux acheter un bélier. Et donc, tu dois aller acheter, peut-être, je sais pas, c'est juste une plume ou quelque chose. Là, tu dois acheter un bélier. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel et lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il sera rendu coupable. Intéressant. Maintenant, regardez encore Deutéronome 24, autre cas de vol. Et là, on entend beaucoup parler à la télé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le kidnapping, nous. Hein, des gens qui sont kidnappés, là je sais que sur les nouvelles françaises, il y a deux journalistes qui ont été kidnappés en Afghanistan, puis je crois qu'ils sont déjà à 350 jours, et tous les soirs, et ils nous rappellent que ces gens sont encore retenus là-bas. Bah, Deutéronome 24:7 nous parle de cela. « Si l'on trouve un homme qui ait dérobé l'un de ses frères, l'un des enfants d'Israël, qui en a fait son esclave, ou qui l'ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Il y a toutes sortes de cas, d'accord? Mais globalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que le kidnapping, c'est un vol. C'est le vol d'une personne. Et là, c'est draconien, peine de mort. Des fois, on entend parler que dans une maternité, quelqu'un a volé un bébé qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est un kidnapping. Imaginez si on commençait à appliquer ces lois bibliques. Vous savez, tout ce qu'on est en train de voir ici, c'est tout le côté de la justice et de la restitution ici. Moi, je me rappelle, il y a des années en arrière, quelqu'un est venu chez nous. On a une table dans l'autre salon avec un coffre très joli qu'on nous a offert, chinois en fait. Et sur ce coffre, on a mis une plaque de verre qui était coupée aux dimensions du coffre. Alors, il y a un petit rebord, donc le verre est sur le rebord, et entre le haut du coffre et le verre, il y a un petit espace. Et il y a des années en arrière, quelqu'un, pas dans cette église, sinon je ne donnerai pas l'histoire, bien sûr, d'accord, dans une autre église, non, c'est pas vrai, d'accord, ben oui, c'est vrai. Quelqu'un est venu chez nous, des gens avec qui on est amis encore, et une de ces personnes s'est assise, parce qu'il y avait beaucoup de monde, s'est assise sur notre table. Et clac, le verre a cassé. Alors la personne a demandé pardon, mais n'a jamais offert de payer ce verre. Et c'est marrant, même encore aujourd'hui, ça me reste en travers. Peut-être que je devrais l'appeler, d'accord. Mais ça me paraissait injuste. Mais tu as cassé quelque chose. Déjà, tu as utilisé l'objet pour une raison qui ne devait pas être utilisée. Tu l'as cassé. Mais la moindre des choses, c'est que tu payes. Et si on appliquait la loi biblique, peut-être un bélier aussi, quoi, d'accord. Non, mais je veux dire, il y a le sentiment de justice et d'injustice. La Bible est vraiment claire par rapport à ça. Et c'est ce qu'on devrait aussi enseigner à nos enfants. Si tu empruntes un jouet, tu le casses, tu devrais, avec ton argent de poche, si tu en reçois, ou avec ton argent, payer cet objet. C'est juste. Quatre. Quels sont les différents types de vols dans la Bible ou condamnés dans la Bible? Alors, il y en a beaucoup. Alors, je vais que les mentionner. On ne va pas regarder les versets parce qu'il y en aurait trop, quelques-uns. Premièrement, prendre à quelqu'un ce qui ne nous appartient pas. C'est tout simplement un vol. Ça, on l'a déjà vu. Deuxièmement, le kidnapping. Ça aussi, on l'a vu. Troisièmement, l'exploitation des pauvres. Job 20, 19 à 22 nous dit « Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies, son avidité n'a point connu de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher, rien n'échapperait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse, la main de tous les misérables se lèvera contre lui. » Là, il condamne quelqu'un de ne pas avoir fait quelque chose pour aider les pauvres. Et c'est plus que ça, c'est vraiment... C'est vraiment un sentiment de vol, c'est-à-dire on a rejeté l'idée même d'aider. 4. Falsifier les balances ou la fraude. Proverbe 11:1 nous dit « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Vous achetez, je sais pas, des cornichons, et il dit 150 grammes, et vous pesez chez vous, vous voyez qu'il y a 120 grammes. Vous venez d'être roulé. Ça serait une balance injuste. C'est la fraude. 5. Ne pas honorer un contrat. Psaume 37:21. Vous achetez une maison, vous signez un contrat, vous ne l'honorez pas, ou je ne sais pas, il y a peut-être autre chose, un contrat entre quelqu'un, et vous ne l'honorez pas. Vous faites défaut. Ça, ce serait un vol. À moins qu'il y ait un arrangement qui peut se faire, on se comprend. Mais simplement, ce ne serait pas honorer un contrat. 6. Déposséder les gens injustement, ou voler leur maison et leur champ. Michée 2:2. Ça, c'est intéressant. Le prochain. 7. Déplacer les bornes de son voisin. Deutéronome 27:17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Alors ça, c'est amusant parce que chez nous, de nouveau, je vous donne beaucoup d'illustrations personnelles, mais on a donc du terrain et pas aujourd'hui, mais le printemps, on tond l'herbe. Alors on a un champ à côté de chez nous, grand, un jour qui est constructible, mais pour l'instant, il n'y a personne dessus. Alors, les bornes sont claires chez nous. Il y a une borne là, et on voit très bien où est la ligne. Mais puisque il n'y a personne à côté, au fur et à mesure des années, on a réalisé que peu à peu, on tombe un tout petit peu plus chez le voisin. D'accord? Alors, c'est pas beaucoup. Alors, bien sûr, c'est dans le sens, on a nos bornes. D'accord? Donc, si un jour ce terrain est vendu, les bornes viendront et ce sera clair, il y aura une barrière. Mais ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire que si on peut très facilement déplacer et grignoter à droite et à gauche. Alors, c'est pas un mal parce que le paysan, quand il vient et il tond l'herbe, il coupe l'herbe, eh bien, il coupe aussi l'herbe chez nous, d'accord? Donc, chacun son tour, d'accord? On s'entend super bien avec lui, et c'est aussi lui avec les vaches, d'accord? Mais on s'entend très très bien. 8. Ne pas donner ce qui est dû et promis à quelqu'un. Proverbe 3, 27. Ne pas payer un salaire à l'heure. Si vous êtes, vous devez payer le 15 du mois, et si de manière régulière, bon, il y a peut-être un problème un jour, mais si de manière régulière on vous paye 5 jours en retard ou 3 jours en retard, ben en fait c'est l'employeur qui utilise cet argent et pas vous pendant ces 3 jours. Donc ça, ce serait injuste. C'est un vol. L'usure. Des intérêts exorbitants, psaume 15, 5. Accepter des présents. Job 15, 34. Ça, c'est intéressant. Parce que là, on pense toujours au vol par rapport à l'argent. Mais il y a un autre vol très intéressant dans 1 Thessaloniciens 4, dans le Nouveau Testament. C'est le vol de la sexualité. Ça, c'est surprenant, hein, peut-être, mais je vais vous le lire. Au 1 Thessaloniciens 4, 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous sachiez, c'est que vous vous absteniez de la débauche, donc sexuelle. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme les font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que, contexte, personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires impliquées sexuelles. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Voyez-vous, le corps d'une personne appartient à son conjoint et personne d'autre. Dans le mariage, on l'a déjà vu, hein, sur le commandement sur l'adultère. Donc, de coucher avec quelqu'un qui n'est pas mon conjoint, même si je ne suis pas marié, c'est de commettre un vol. Je vole la sexualité et le corps de cette personne à son mari ou son épouse future. C'est un vol. C'est ce qu'il dit. C'est intéressant. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle. De ne pas payer ses impôts ou pas payer totalement ses impôts, c'est aussi un vol. Parce que la Bible, dans Romains 13, nous dit qu'on doit payer nos impôts. Alors, c'est pas mal de trouver une manière légale de payer moins d'impôts. Ça, c'est OK. Mais de trouver une manière illégale de payer moins, ça, c'est pas OK. Romains 13, vous pouvez lire. Et il y a un autre vol assez intéressant. Et ça, on le trouve dans Malachie. 3, c'est notre vol vis-à-vis de Dieu. Nous, on peut voler Dieu. Et ça, c'est intéressant. Alors, on ne va pas regarder dans le détail, on a déjà regardé dans d'autres sermons lorsqu'on a parlé de l'argent. Mais regardez ce qu'il est dit dans Malachie, chapitre 3, et verset 7. Dieu dit, « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites, « En quoi devons-nous revenir ? Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez. » Et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. » Vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction et l'abondance. Je ne veux pas entrer dans le détail, on a déjà vu, d'accord? Mais Dieu s'attend que d'un cœur généreux, nous lui rendions la meilleure part. Et je ne dirais pas que pour l'argent, mais aussi pour le temps et nos dons. Nous avons tous reçu des dons spirituels, n'est-ce pas? En Corinthiens 12, Romains 12, etc. Nous avons tous du temps. Nous avons tous de l'argent, et Dieu s'attend qu'une part de ces choses lui revienne. De ne pas le faire est considéré un vol. Un vol vis-à-vis de Dieu. Cinq. Quelles sont les conséquences du vol? Les conséquences du vol. Si je suis... Alors, au fait, si vous avez volé, ou si vous volez, vous êtes considéré voleur. C'est quand même assez intéressant de penser à ça, non? Alors, quelles sont les conséquences du vol? Premièrement, il y a les conséquences sociales. Jérémie 2, 26 dit ceci, « Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. » Alors, un voleur, quand il vole, n'a pas l'intention d'être pris. d'être surpris. Lorsqu'il est surpris, il a honte. Il a honte. Alors avant de voler quelque chose, réfléchissez bien. Si je me fais choper, quelle sera la conséquence sociale pour moi ? C'est ce qu'il est en train de dire ici. Deuxième conséquence, conséquence financière. Dans l'Ancien Testament, il y a au moins l'idée de restitution et multiplier. Vis-à-vis de la loi, quelles seraient les conséquences d'être surpris en faute ? Troisième conséquence, corporelle. Si on était dans l'Ancien Testament, ça pourrait mener à la mort. Donc ça, c'est assez drastique, je dirais. Mais il y a une autre conséquence, mes amis, encore bien plus grave. Allez avec moi à 1 Corinthiens 6. J'aimerais qu'on y aille tous parce que c'est vraiment, vraiment intéressant de voir ça. 1 Corinthiens 6. Regardez ce qu'il dit au verset 9. 1 Corinthiens 6. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Le royaume de Dieu. Attention, là, on est en train de parler de l'éternité. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, le prochain c'est quoi ? Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Si ma vie est caractérisée par le vol, ou si je me permets de voler, je suis probablement en train de révéler que je ne connais pas Jésus-Christ personnellement. Parce que regardez ce qu'il dit, verset 11. C'est cela que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc il dit, oui, voilà ce qui me caractérisait en tant que non-chrétien. Bien, peut-être pour moi c'était le vol, ou peut-être c'était l'homosexualité, d'être efféminé, ou peut-être c'était d'être infâme, ou peut-être c'était d'être cupide, ou peut-être ivrogne, ou peut-être outrageux, ou peut-être idolâtre, ou peut-être adultère. Mais Christ a envahi ma vie, Christ m'a lavé, Christ m'a sanctifié, Christ m'a justifié, et Dieu a transformé mon cœur. Et maintenant, le voleur que je suis, ben... j'en veux plus, je laisse. Alors peut-être ça n'arrivera pas en un jour, mais c'est possible que ça arrive en un jour. Parce que des fois, si on a une habitude de vol, c'est comme une habitude à l'adultère ou à la débauche, à tous ces autres péchés, des fois ça prend du temps pour remettre tout en ordre. Mais il y a une transformation, il y a un changement. Et ce qui fait réfléchir ici, c'est que mes amis, une personne sans Christ... un voleur sans Christ paiera pour l'éternité. Il sera coupé pour l'éternité de Dieu Saint. Il souffrira pour l'éternité dans ce que la Bible appelle l'enfer, la gêne. C'est ce qu'il dit ici. Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais pourquoi, 6, pourquoi le vol est-il un mal ? Pourquoi le vol est-il un mal ? Alors écoutez bien, d'accord, c'est vraiment intéressant. Pour comprendre la réponse à cette question, j'aimerais reculer un petit peu. Vous rappelez que l'homme a été créé par Dieu à son image. Nous sommes donc empreints d'une qualité morale et spirituelle qui appartiennent à Dieu, dont nous avons été dotés. Genèse 1, 26 et 27. Dans Genèse 1, 28, l'homme a été appelé à assujettir la terre. Écoutez bien, d'accord ? C'est quoi assujettir la terre ? C'est de prendre la terre comme nous la connaissons, et de l'utiliser pour notre bien. Exemple, Jésus était menuisier, ça veut dire qu'il prenait le bois, il fabriquait des maisons ou des meubles. C'est ça, assujettir la terre, c'est de prendre ce que la terre nous donne et l'utiliser pour notre bien. Regardez ce micro, ce pupitre, ce piano, tout ce que nous avons autour de nous, tout vient à la base de la terre. C'est quand même génial d'y penser. Même les médicaments, tout vient de la terre, la nourriture, tout. L'assujettir, c'est donc l'utiliser pour notre bien. Alors c'est intéressant qu'avant même la chute, dans Genèse 2, 15, Dieu a donné à l'homme le travail justement. Il a donné ce travail à l'homme. Dans Genèse 2, 15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder la terre. Donc d'un côté, Dieu donnait la nourriture gratuitement, mais de l'autre côté, il dit non, mais j'aimerais que tu travailles, tu dois la cultiver la terre. La grande différence, c'est qu'avant la chute, il ne suait pas. Après la chute, malédiction, il a commencé à suer. Ceci montre, mes amis, que le travail est un bien en soi. Le travail de l'homme n'est pas lié à la chute. Comme quoi il travaillait avant la chute. Non, le travail de l'homme est lié à sa dignité. L'homme a été créé pour travailler. Ça fait partie de son besoin. Le travail est un besoin comme manger est un besoin. C'est un besoin que Dieu a mis à l'homme. Ça fait partie de sa nature. Il est fait, excusez-moi de vous le dire, nous sommes faits pour travailler. Voilà. D'accord ? Oui, mais alors quel était l'effet de la chute ? L'effet de la chute n'était pas de nous faire travailler. L'effet de la chute, c'était la pénibilité du travail. Là, on le voit dans Genèse 3, 17, il a dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais dit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. » Et oui, je dois assujettir la terre, mais maintenant, la terre est maudite, donc il y a un pépin. Et c'est difficile d'assujettir la terre maintenant. C'est à force de la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à que tu te retournes dans la terre d'où tu as été pris. Donc il dit voilà, à partir de la chute dans Genèse 3, le travail est devenu pénible maintenant. Le huitième commandement devient clair. Selon ce commandement, même si le travail est pénible, je dois travailler. Ma dignité vient de mon travail. Je dois travailler. Même s'il est pénible. Et donc je récolte, j'assujettis, je crée des choses, je possède les choses que j'ai assujetties pour lesquelles j'ai travaillé, et de ce fait, j'ai le droit de garder les choses et de protéger ce qui est à moi. La chose m'appartient. Nous avons donc le droit de travailler avec nos mains, l'ordre de le faire. Si nous ne voulons pas travailler, on ne devrait même pas manger. Ou nous avons le droit de produire ces choses par nos talents et de jouir de ce qui nous appartient. Dans 1 Timothée 6, 17, vraiment intéressant, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, c'est ça le danger. » De ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Attention, ne faisons pas de nos richesses notre Dieu. Dieu est notre Dieu, il nous permet de nous enrichir par notre travail, qui nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Nous avons le droit de travailler et de jouir du fruit de notre travail. C'est un droit, c'est lié à notre dignité. Et je trouve Ecclésias 5, 17, excellent, qui dit quoi ? Voici ce que j'ai vu, c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il a fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Un don de Dieu. Nous avons le droit de travailler et de jouir de notre richesse, mais attention, que cela ne devienne pas notre Dieu. La chute ajoute maintenant la dimension de la pénibilité, et c'est pour ça aujourd'hui qu'il faut des banques avec des gardes de sécurité armés, des bijouteries avec des agences de sécurité, des maisons avec des systèmes d'alarme élaborés, des voitures avec des systèmes d'alarme ennuyeux, des coffres-forts avec des portes d'un mètre de large, des mots de passe pour nos comptes en banque et pour accéder à nos pages sécurisées sur Internet. Pourquoi il nous faut de la police? Pourquoi il nous faut un militaire et de l'armée, tout ça? Pour protéger nos trucs. Vous dites, mais John, oui, on a le droit de posséder des trucs. Ça fait partie de la dignité que Dieu nous donne. C'est pas un mal. C'est intéressant. Vous connaissez le dixième commandement? On le verra dans deux semaines. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. On a même le droit d'avoir des maisons, des appartements. On n'a même pas le droit de la convoiter s'il était quelqu'un d'autre. Alors maintenant, on comprend pourquoi le vol est un grand mal. Le vol atteint notre dignité parce que Dieu nous a créé des travailleurs qui nous permettent d'avoir des choses et de les posséder. Et Personne n'a le droit de venir me voler cette chose. Personne. Oui, mais c'est pas juste, il est beaucoup plus riche que moi. Tu n'as même pas le droit de convoiter. 10e commandement, revenez dans 2 semaines. C'est intéressant, non? Vraiment intéressant. 7. Quel est l'antidote du vol? Je termine là. Quel est l'antidote contre le vol? Plusieurs choses. Numéro 1. Être confronté par la parole de Dieu. 1 Timothée 1:10. Verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour le méchant, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les infâmes, les voleurs d'hommes et les menteurs. Il est en train de dire que la loi, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, confronte le pécheur, elle lui montre son péché. Si tu es un voleur aujourd'hui, tu es ici, et si ça fait partie de ta vie, probablement que la Bible est en train de te montrer ton erreur. C'est le but de la loi, pour te montrer que tu es voleur. 2. Cela devrait te pousser à Jésus-Christ. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Certains étaient voleurs, mais ils ont été sauvés, rachetés, justifiés, sanctifiés par Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6. La loi te convainc, te montre, met la lumière sur ton péché, et tu fuis à Jésus-Christ. Tu dis, Jésus-Christ, je t'apporte mon vol, mon cœur déchu. Ça révèle que je suis un pécheur. Et lui te dit, je t'aime. Je suis mort pour toi, à ta place. Je t'aime et je t'offre le pardon total, instantané, pour tout ton péché, tous tes vols, tout. Voilà la puissance de Jésus-Christ. 3e antidote, prendre conscience qu'un chrétien ne vole pas. 1 Pierre 4,15. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou un voleur. Un chrétien ne vole pas. Point à la ligne. Il a été transformé en Christ. Au contraire, celui qui volait donnera maintenant. Alors bien sûr, hein, quand on parle de vol, on pense au monde moderne d'aujourd'hui. Vol de temps, vol d'argent, je ne sais pas, le net. Il y a plein de manières qu'on peut voler, très subtiles. Ensuite, autre antidote, le travail. Désolé, hein. Là je suis obligé de le dire. Le travail. Éphésiens 4, 28 dit quoi? Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Excellent. En faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi faire quoi? Donner à celui qui est dans le besoin. Si tu es un voleur, commence à travailler, économise, donne. Dieu va te bénir. Il va te bénir. 5. La piété avec le contentement. Ça, c'est très important. La piété avec le contentement. Autre antidote contre le vol. 1 Timothée 6:6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Demande à Dieu de te rendre contenté de ton lot dans la vie. Contenté. 6. La libéralité. On vient de le voir. Éphésiens 4, 28. Donne. Ça, c'est une des antidotes, une grande antidote. Si tu as l'habitude de prendre, donne. 2 Thessaloniciens 3:10, on l'a vu tout à l'heure, refuse la paresse. Travaille. Et très intéressant, investis dans le ciel, chrétien. Matthieu 6, 19 dit quoi? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Alors, il n'est pas en train de dire, n'ayez aucune économie, on vient de le voir dans la Bible, il est clair qu'on a le droit à avoir des possessions. Mais il dit, faites attention que vos trésors ne restent pas un trésor terrestre uniquement. Mais, verset 20, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Mais ouais, investis dans le royaume de Dieu, utilise ton argent, utilise tes dons, utilise tes dents et investis-le pour le Seigneur. Ton cœur va suivre cela et ça va changer toute l'attitude vis-à-vis de tes biens. Donc ça, c'est l'antidote contre le vol. Est-ce que Christ peut te transformer? Oh ben là. 8e question, comment Jésus-Christ peut-il transformer un voleur? Écoutez, dans Luc 19... Vous vous rappelez Zachée, notre ami Zachée? C'était un voleur, c'est un juif, il travaillait pour les Romains. Les Romains lui donnaient un montant, puis lui, il demandait beaucoup plus que les Romains lui demandaient. Et donc, il était haï par tout le monde. Alors, il s'est fait convertir. Enfin, il s'est converti par Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire dans Luc 19. Il va dans un arbre, il voit Jésus passer. Jésus lui dit, écoute, je viens chez toi. Et apparemment, il se convertit parce qu'au verset 8 de Luc 19, Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est un fils d'Abraham. Cet homme a été converti, il a dit, écoute, maintenant, je vais faire restitution selon la loi à toutes les personnes que j'ai volées. Oui, Dieu peut transformer un voleur totalement et instantanément comme Zachée. Mais vous dites, mais John, moi je suis voleur, que faire? Que faire? Eh bien, faites exactement ce qu'a fait le voleur qui pendait sur la croix à côté de Jésus. Vous vous rappelez? Dans Matthieu 27, 44, il est appelé un brigand. Dans Luc 24, l'un des malfaiteurs, voleur, crucifié l'injurie en disant, n'es-tu pas Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu sors avec moi dans le paradis. T'es voleur? Aujourd'hui, Christ peut te transformer. Maintenant, inclinons-nous.